Une attaque au couteau mortelle dans un lycée de Nantes. Un élève a poignardé 4 camarades. Une lycéenne est morte. 3 autres ont été blessés. Le profil de l'assaillant reste flou. Avant de passer à l'acte, il avait envoyé un mail, un appel à la révolte dans lequel il dénonce notamment la destruction de la nature. 21 barons de la drogue sous les verrous, Bruno Retailleau évoque un coup porté au narcotrafic à Marseille. Il s'agit de têtes de réseau. 170 enquêteurs ont été mobilisés sur ces investigations. La Nouvelle-Calédonie se dote d'une unité médico-judiciaire de proximité installée au Medipôle. Elle a pour objectif d'améliorer la prise en charge des victimes de violences notamment. L'actualité institutionnelle, 3 mesures pour relancer l'économie. Hier, les élus de la province Sud étaient réunis et ont acté la création des dispositifs Sud Pro, Sud Jeune et Sud Santé. Présentation dans ce journal. À Dimbéa, l'école Jacques Minguère ouvrira à la rentrée prochaine. Hier, les élus du conseil municipal ont acté la relance de l'appel d'offres concernant la reconstruction de l'établissement détruit lors des émeutes. L'actualité sportive du judo et la délégation tricolore qui continue sa moisson au championnat d'Europe. En revanche, une déception à signaler chez les dames. Clarisse Agbenienou a été disqualifiée en finale. La météo, les nuages restent omniprésents et s'accompagnent de nombreuses averses modérées à fortes. Quant aux températures, les maximales légèrement au-dessus des normales fluctuent entre 27 et 30 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité en métropole.
Oui, le choc dans le collège Notre-Dame de Toutes Aides de Nantes. Un élève de seconde a attaqué plusieurs de ses camarades au couteau la nuit dernière. Une lycéenne a été tuée, 3 autres élèves ont été blessés. Sandrine Prioul est sur place pour Europe 1.
Eh bien écoutez, pour l'heure, le déferlement de violence avec lequel le lycéen s'est acharné sur ses camarades de seconde reste assez inexplicable. Ces 2 camarades de classe sont encore sous le choc.
Les gens criaient « courez, 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 vous devez y aller » et on a senti que quelque chose n'allait pas bien, mais on savait pas quoi faire.
J'ai une amie qui a vu en fait ce qui s'est passé et qui était là quand la personne s'est fait poignarder. La personne s'est introduite dans sa classe, il a poignardé la deuxième personne la plus proche parce que la première elle a fui et la deuxième il l'a poignardé apparemment plusieurs fois. Tout le monde était au fond de la classe, ils avaient tous hyper peur. Et il y a un monsieur de l'informatique qui l'a arrêté au bout d'un moment, du coup. Il a mis des coups de couteau à un de ses amis, en fait. Il y en a un, il lui a mis 10 coups de couteau alors que c'était un de ses amis.
4 élèves victimes d'une violence au couteau par ce jeune garçon, très perméable aux théories complotistes, semble-t-il, sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne sont dans l'établissement auprès des personnels et des cellules de soutien psychologique sont en train d'être mises en place.
L'auteur présumé des faits, donc âgé de 15 ans, il a été interpellé après avoir été maîtrisé, vous venez de l'entendre, par le responsable informatique. Certains évoquent des troubles psychiatriques chez lui. Il a par ailleurs envoyé un mail avant son passage à l'acte, une sorte de manifeste qui appelle à la révolte avec une critique de la mondialisation. Il parle également d'écocide et dénonce notamment la destruction de la nature. Après ce drame, quoi qu'il arrive, François Bayrou a vivement réagi. Pour le Premier ministre, l'école doit absolument rester un sanctuaire.
On a l'impression que c'est épisode après épisode la même explosion de violence. Cette menace perpétuelle ne doit pas être acceptée. Voilà pourquoi nous allons, dès cette semaine, réunir le groupe de travail que j'ai constitué il y a quelques semaines sur la volonté de bannir le port d'armes blanches dans les établissements et dans les lieux de rencontre pour les jeunes. Et puis nous allons multiplier les contrôles auprès des établissements scolaires. Notre devoir, c'est de faire en sorte que dans l'avenir, ce type de situation, ce type de drame et ce type d'armes ne puissent plus être acceptés. L'école doit être préservée. L'école, ça n'est pas la rue.
La réaction du Premier ministre François Bayrou après ce drame. Dans le reste de l'actualité en métropole, Bruno Retailleau parle d'un coup porté aux narcotrafiquants. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 21 barons de la drogue de Marseille. 170 enquêteurs ont travaillé pour déloger les têtes de réseau, des chefs qui ont été arrêtés à l'extérieur de la cité phocéenne. Écoutez Bruno Retailleau.
Je vous confirme que ça n'est pas du menu fretin, que ce sont des hauts responsables qui tiennent un réseau à la Castellane et que le coup que nous allons leur porter est un coup, j'espère mortel, mais en tout cas extrêmement sérieux pour eux. Ça a été déclenché depuis Marseille, mais c'est aussi une enquête qui a des ramifications nationales.
Bruno Retailleau évacue tout lien éventuel entre ces arrestations et les récentes attaques contre des prisons en métropole.
À Radio Rythme Bleu, 6h35.
Plus de 60 000 personnes se sont déjà recueillies devant le cercueil du pape François qui est exposé depuis hier à la basilique Saint-Pierre au Vatican. En ce moment même, les fidèles continuent d'affluer en bravant la pluie qui tombe depuis plusieurs heures maintenant. Une foule massive qui s'agglutine place Saint-Pierre en attendant de pouvoir entrer dans la basilique.
J'ai attendu à peu près 3-4 heures pour le voir, mais ce n'est rien par rapport à ce que cela représente. Nous avons ressenti beaucoup de choses pendant le court moment où nous l'avons vu. C'est inoubliable, cela n'arrive qu'une seule fois dans une vie.
Ça faisait bizarre, je ne l'ai pas reconnu, on n'aurait pas dit que c'était lui.
Effectivement, on ne le reconnaît pas, mais c'est pas quelque chose de triste. On voit que des gens un peu pleurer, mais c'est pas du chagrin. C'est en pèlerinage, je pense que des gens le vivent ensemble, mais on s'en souviendra.
On l'avait pas prévu, mais oui, on s'en souviendra longtemps.
Et j'ajoute que la basilique Saint-Pierre va rester ouverte au public une bonne partie de la nuit avant pour que les fidèles puissent se recueillir devant la dépouille du souverain pontife dont les obsèques seront célébrées demain soir pour nous. Et puis je rappelle que sur le territoire, une messe en hommage au pape François sera célébrée ce soir à 18h à la cathédrale de Nouméa. Elle sera présidée par l'archevêque Monseigneur Suscitino Sionepoe. Il est 6h passé de 37 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Après la pause, l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec la présentation de l'unité médico-judiciaire de proximité du Médipôle.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Du 25 au 27 avril, à l'occasion du salon automobile Jeandot, bénéficiez de 50% de remise sur votre assurance auto. Oui, vous avez bien entendu. 50% de réduction sur l'assurance de votre voiture. Rendez-vous à Moselle sur le stand Groupama Pacifique pour un devis personnalisé et tentez de gagner un an d'assurance auto. Voir conditions auprès de nos conseillers.
Recensement de la population 2025. Du 22 avril au 22 mai, j'accueille l'agent recenseur. C'est rapide et confidentiel. Mes réponses sont utiles. Elles contribuent à dessiner le portrait de la Nouvelle-Calédonie. Plus d'infos sur Facebook, ISNC ou au numéro vert 05 20 00. Aujourd'hui, je compte pour demain.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Et je le disais donc, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'une unité médico-judiciaire de proximité au Médipôle. Elle a pour objectif de prendre en charge les victimes et également les personnes placées en garde à vue qui doivent subir un examen ou alors qui demandent tout simplement à voir un médecin, Lionel Sabot.
Oui, l'unité est en fonction depuis septembre mais n'a été inaugurée officiellement qu'hier matin. En 7 mois, l'unité a réalisé près de 2000 actes. Elle a reçu 500 gardés à vue et réalisé 1300 consultations de victimes, dont 60% dont sont des femmes. Dans cette UMJP du Médipôle, située entre les urgences adultes et pédiatriques, tout est fait pour accompagner au mieux les victimes et faciliter la libération de la parole. Écoutez le docteur Céline Paré, elle est médecin légiste et chef de service.
C'est primordial parce que si elles se sentent à l'aise, en confiance, nous on aura d'autant plus d'éléments pour nourrir d'une certaine manière nos certificats et donc pour que la justice puisse être rendue le plus justement possible finalement. Donc c'est très très important. Il arrive qu'il y ait des victimes qui soient complètement mutiques, qui ne vont pas du tout parler et finalement le traumatisme est tel qu'elles ne parlent pas et c'est préjudiciable pour elles parce qu'on a besoin de recueillir la parole et pour nous-mêmes orienter nos examens, quel type de prélèvement on peut faire. Donc c'est important que les gens se sentent bien, même s'ils vont voir un médecin légiste. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que quand vous dites que vous êtes médecin légiste, la majorité de la population pense que vous ne faites que des autopsies. Parce que c'est véhiculé par les séries télévisées, les films. Mais en fait, le gros de notre activité, c'est le vivant. Et donc, c'est primordial que les gens se sentent bien accueillis et soient bien.
L'unité médico-judiciaire de proximité comporte des salles d'examen avec des médecins, des psychologues, mais aussi une salle d'interrogatoire filmée. Le but est de pouvoir tout centraliser au même endroit. Yves Dupas, le procureur de la République.
C'est une forme de guichet unique ici, hein, avec des victimes qui sont d'abord soignées, notamment par le service des urgences, et qui sont ensuite prises en charge dans l'UMJ, dans ce processus judiciaire qui est déterminant. Donc c'est une belle étape au service des victimes de toute infraction. Hein. Ce sont les violences, bien sûr les violences intrafamiliales, les violences sur la voie publique, les violences sexuelles, les violences dans le champ de la sécurité routière. Hein. Un outil que la Nouvelle-Calédonie attendait depuis longtemps. Mais nous y sommes arrivés avec une volonté de l'ensemble des partenaires.
Et hier, lors de l'inauguration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était représenté par Claude Gambet, en charge de la santé, et Isabelle Chamorro, chargée à des sujets liés à la famille, qui était satisfaite de voir ce projet de longue date aboutir.
C'est vraiment un sujet qu'on avait abordé dans le cadre de la feuille de route du Grenelle. C'était un engagement que la Nouvelle-Calédonie avait pris de développer avec ses partenaires. Donc c'est important, il n'y a pas évidemment que des victimes de violences conjugales ici au sein de cette UMJ. Et c'est C'était important pour nous, surtout, que les victimes puissent être accueillies dans un lieu unique, avec une équipe pluridisciplinaire et qui est à la fois la médecine légale, mais qui est surtout tout l'accompagnement au niveau social, au niveau psychologique. Ce qui est important pour nous également, et ça c'est vraiment une marge de progression pour la Nouvelle-Calédonie, c'est la prise en charge des mineurs, parce qu'on voit que les violences sur mineurs sont souvent mal connues, malheureusement se développent, et c'est un des sujets aussi qu'on voulait prendre en charge dans le cadre de cette unité.
L'investissement de 300 millions de francs a été financé dans le cadre des contrats de développement. L'État a contribué aux deux tiers du montant de la facture. Le gouvernement a pris en charge le reste. Le fonctionnement annuel de l'unité sera assuré par le ministère de la Justice à hauteur de 120 millions de francs. Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut Commissariat.
La Nouvelle-Calédonie est en effet le dernier territoire à ne pas être doté de ce type de structure. C'est donc une mise à niveau qui était plus que souhaitable. Ce résultat est l'aboutissement finalement d'efforts collectifs portés par la justice, portés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec les financements de l'État. C'est quelque chose qui est important à la fois pour le Medipôle, à la fois pour la justice en Nouvelle-Calédonie, et puis pour la société tout entière. Comme on le disait tout à l'heure, l'UMJ elle ne soigne pas que des gens, que des individus, mais elle contribue à soigner la société, lui faire régler ses maux. Et donc pour nous, du côté de l'État en tout cas, c'était un projet qu'il fallait impérativement soutenir et on l'a fait très volontiers.
L'unité médico-judiciaire de proximité du Medipôle est ouverte sur rendez-vous ou sur réquisition judiciaire du lundi au vendredi de 7h30 à 16h, puis une astreinte téléphonique est assurée par les médecins de 16h à 22h. Astreinte qui est également assurée les week-ends et jours fériés de 8h30 à 22h. Après 22h du lundi au dimanche, les médecins interviennent sur appel des forces de l'ordre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. L'unité médico-judiciaire de proximité qui vient d'être inaugurée au Medipôle est-elle, selon vous, un outil efficace pour lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 54% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que ce n'est pas le bon moment pour lancer une polémique sur le permis de conduire calédonien. Ils sont donc 46% à penser à l'inverse que c'est le bon moment. Merci pour votre participation et rendez-vous demain samedi pour la réponse à la question du jour. Dans l'actualité politique, après les loyalistes mercredi, c'était au tour de Calédonie Ensemble de rencontrer ses militants hier soir lors d'une rencontre citoyenne qui se tenait à l'UNC. Quelques 200 personnes ont assisté à cette réunion publique qui portait sur une question. Un compromis sur l'avenir de notre pays est-il possible ? Philippe Michel, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez se sont succédés pour présenter le projet d'accord politique proposé par le ministre des Outre-mer. Les explications de Philippe Dunoyer.
On avait pour objectif de décrire à la fois le contexte, parce qu'il ne faut pas oublier dans quel contexte, notamment économique et social, on se trouve. C'est un paramètre important qui doit nous conduire, en tout cas, c'est mon avis, à trouver un accord. Ensuite, décrire un peu les principales lignes du document de travail ou du document qui s'appelle le compromis politique, pour que les personnes qui sont venues ce soir comprennent un peu plus précisément les points de convergence qu'on a pu trouver, notamment avec des positionnements qui sont les nôtres depuis un certain temps sur beaucoup de sujets. Les points de divergence aussi, parce qu'il y en a, ça aussi, c'était une sous-partie importante, même si aujourd'hui, on n'a pas encore l'esquisse d'un accord. Le prochain déplacement du ministre va être l'occasion, justement, je l'espère en tout cas, d'engager des négociations pour trancher ces points de désaccord.
Pour Calédonie Ensemble, le contexte et notamment la situation économique imposent que l'on trouve un accord. Le parti espère que le prochain séjour de Manuel Valls soit constructif et Philippe Dunoyer reconnaît avoir envie d'un accord.
Un accord, ça dépend essentiellement de deux facteurs. D'abord, une volonté et ensuite une capacité à négocier. Donc moi, ce que j'espère, c'est que cette volonté, elle soit unanime et que le mandat de négociation soit attribué à toutes les délégations, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Sans surprise, vous savez que pour l'UCFLNKS, cette étape n'est pas encore franchie. Il faut vraiment qu'on puisse rentrer dans ces étapes-là. Ça ne veut pas dire qu'on va se précipiter, mais les sujets sont connus, les positions des uns et des autres sont connues. Et le ministre vient quand même une dizaine de jours pour nous permettre de tracer les grandes lignes de cet accord. Il pourra peut-être y avoir une étape, mais je n'envisage pas que ce séjour se conclue par aucune négociation. Donc ce que j'espère, c'est que nous serons tous autour de la table le plus longtemps, aussi longtemps que nécessaire, pour négocier et poser les bases de l'accord.
Et pour Calédonie Ensemble, donc chaque intervention des élus du mouvement était suivie des questions du public. Elles ont notamment porté sur le droit de vote, le droit à l'autodétermination ou encore les positions des différentes délégations. Avant de refermer cette page, un rendez-vous sur notre antenne, c'est Eric Deschmecker, professeur de droit privé à Melbourne, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Cet universitaire a donné la semaine dernière une conférence sur le thème de la situation ainsi créée pour évoquer la sortie de l'accord de Nouméa. Il sera interrogé sur l'analyse originale qu'il développe concernant la situation de la Nouvelle-Calédonie. Il exposera aussi à cette occasion ce qu'il pense du projet d'accord politique proposé par Manuel Valls. Éric Deschmecker, invité de Transparence, est à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. En attendant, il est 6h, passé de 46 minutes, et après la pause publicitaire, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, avec notamment un retour sur cette assemblée de la province sud réunie hier pour parler notamment de l'économie.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Vous avez envie d'évasion ? Offrez-vous le Vanuatu à prix promo. Le package Port Vila, incluant les vols, 3 nuits d'hôtel, les petits déjeuners et transferts, est à partir de 56 700 francs seulement. Et le package Tana, incluant aussi les vols, 7 nuits d'hôtel et l'excursion au volcan, est à partir de 168 900 francs par personne. Alors ne ratez pas ces offres et réservez vite auprès de votre agence de voyage. Plus d'infos sur la page Facebook Office de Tourisme du Vanuatu.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne ? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Besoin d'un nouveau véhicule ? Alors rendez-vous au Village Automobile à Nouméa PK4.
Et oui, le Village Automobile, c'est le seul endroit qui regroupe 11 grandes marques de véhicules neufs.
Et jusqu'au 10 mai, profitez de nos prix les plus bas et venez essayer votre nouveau véhicule parmi nos marques. Chevrolet, Citroën, DS Automobile,
Great Wall Motors, Haval, Isuzu, Mercedes,
Opel, Peugeot, Power et Subaru.
Le Village Automobile, un seul endroit et des offres de folie. Le Village Automobile est ouvert en continu du lundi au vendredi et le samedi jusqu'à 11h30. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
Info matin, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Les élus de la province sud étaient réunis en séance publique hier matin. À l'ordre du jour, l'examen de délibération visant à donner un coup d'accélérateur à la reprise économique. Un coup de pouce qui se décline en trois dispositifs, deux baptisés Sud Pro et Sud Jeune, votés à l'unanimité par les conseillers, qui ont vocation à soutenir la relance économique. Écoutez Sonia Baquès, la présidente de la province sud.
1 milliard pour les patentés et les TPE et 500 millions pour aider à l'embauche de jeunes salariés de moins de 30 ans. Donc ces deux dispositifs disjoints, pour les patentés et les TPE, c'est 250 000 francs par entreprise, à condition que cet argent soit consommé dans d'autres entreprises de la province sud. Et l'aide à l'embauche pour que les entreprises qui hésitent encore un peu, elles aient un petit coup de pouce qui permette d'embaucher des jeunes calédoniens.
Le troisième dispositif, baptisé, lui, Sud Santé, qui a également été voté à l'unanimité des élus, vise à favoriser l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour le recrutement d'infirmiers. Un dispositif qui va permettre d'agir à trois niveaux, indiquait hier matin Sonia Baquès.
Au court terme, c'est-à-dire il nous manque aujourd'hui 200 postes, 200 infirmiers, donc d'aller les chercher avec un financement de billets d'avion, une aide à l'installation, une aide au loyer, etc. À moyen terme, pour aller chercher des gens qui sont en fin d'études et qu'on essaierait de motiver pour venir en stage ici, en espérant qu'ils y restent le plus longtemps possible. Et puis ensuite, une aide aux jeunes Calédoniens qui voudraient se former dans la formation d'infirmiers, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de bourses. Et donc l'idée, c'est de remettre en place 10 bourses par an pour que les Calédoniens se forment à la profession d'infirmier.
Et j'ajoute que nous reviendrons sur ces dispositifs adoptés hier par l'Assemblée de la Province Sud ce matin à 7h30. C'est en effet Sonia Baquès, la présidente de l'Assemblée de la Province Sud, qui sera notre invitée du matin. Toujours dans l'actualité institutionnelle et provinciale, ce matin, ce sont les élus de l'Assemblée de la Province Nord qui se retrouvent en séance publique à Koné. Ils doivent examiner 34 délibérations, essentiellement des attributions de subventions, des participations financières et des dotations de fonctionnement pour plusieurs établissements scolaires. Toujours en bref, la conférence sociale et fiscale se referme ce matin à l'initiative du gouvernement et plus particulièrement de Christopher Gigès en charge de l'économie. Elle réunit depuis mardi les partenaires sociaux. Son but est de dégager des pistes pour une réforme sociale et fiscale en profondeur qui répondent aux enjeux de relance et de développement de l'économie. L'emploi a été au cœur des débats mardi, la compétitivité et le pouvoir d'achat mercredi. Et hier, les participants ont planché sur la réforme fiscale. Ce matin, ils doivent dresser une synthèse de leurs travaux. L'actualité institutionnelle et cette continuité à la tête de l'AFM, Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris, a été réélu hier président de l'Association française des maires au cours d'une assemblée générale élective, Jean-François Baudin.
Il a obtenu 7 voix sur 11, tout comme le bureau. Bureau en partie d'ailleurs renouvelé puisqu'il intègre le nouveau maire de Kouaoua, Patrick Harry, qui remplace l'ancien maire Alcide Ponga, devenu président du gouvernement. Joseph Perronnet, maire de Moindou, a également intégré le bureau en tant que trésorier adjoint de l'association. 7 maires ont donc voté pour cette équipe. Les 4 qui se sont abstenus sont les maires de Nouméa, Correa, Dembéa, Bouraille et Farino. Au final, pas de grand bouleversement dans les instances de l'AFM, ce qui va permettre de poursuivre le travail entrepris, nous a dit son président Pascal Vittori.
Je m'étais présenté donc en 2024 avec un projet de soutenir les communes au sein des négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons travaillé sur un projet tous ensemble que nous avons remis à l'État et donc nous allons continuer à soutenir ce projet. Et puis, il y a bien sûr les problèmes du quotidien des communes, des représentations dans l'ensemble des institutions. Et donc, c'est le travail que nous allons continuer à faire tout au long de cette année.
Et pour le reste, l'Assemblée générale de l'Association française des maires a permis de lancer plusieurs dossiers.
On a reçu Isabelle Chamorro qui est venue nous faire un point sur l'état de l'école en Nouvelle-Calédonie et qui nous a remis un questionnaire qui va permettre aux maires d'exprimer leurs préoccupations sur les écoles de leur commune. On a également reçu Elisabeth Rivière, donc la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui est venue nous présenter la Chambre et les dispositifs qui sont mis à disposition des artisans dans les communes pour les aider à soutenir leurs entreprises dans ces périodes très difficiles. Et puis, on a reçu les représentantes de l'Agence calédonienne de la biodiversité qui sont venues nous présenter un appel à projet national qui s'appelle Atlas de la biodiversité communale en 2025.
Et lors de cette Assemblée générale, le président de l'AFM a transmis à l'État un document qui vise à renforcer les compétences et le financement des communes afin de garantir l'investissement dans des projets de proximité.
À Dembéa maintenant, l'école Jacques Minguet, détruite pendant les émeutes, devrait rouvrir en février 2026. Les élus étaient réunis hier soir lors du conseil municipal et ils ont acté la relance de l'appel d'offres concernant la reconstruction de cet établissement scolaire. Elle était initialement prévue cette année, cette rentrée, mais elle a pris du retard, comme l'explique le maire de la ville, Johan Lecourieux.
Bon, on l'avait tellement anticipé dans la reconstruction parce qu'on voulait ouvrir en 2025, mais il fallait attendre les recettes de l'État et comme celles-ci sont arrivées, un léger décalage et on est obligé de relancer l'appel d'offres parce que le précédent était caduc. Donc c'est pas très grave, là on relance l'appel d'offres et on sait que l'école Jacques Minguet sera prête pour la rentrée 2026 et on espère aussi que l'école de Grélan sera aussi prête en 2026 avec l'aide totale de l'État qui nous aide dans le cadre de cette reconstruction. Je suis convaincu que l'État fera le nécessaire pour que les arrêtés arrivent dans les délais attendus.
Au total, la municipalité prévoit 47 millions de travaux pour la reconstruction de l'école Jacques Minguet et près de 200 millions pour Louise de Grélan. Et puis toujours concernant les écoles, deux délibérations ont également été adoptées hier soir. Elles accordent les subventions annuelles pour le fonctionnement des écoles publiques de la commune ainsi que les associations de parents d'élèves. La municipalité qui a décidé de maintenir ses subventions à l'identique par rapport à l'année dernière. Près d'1 700 000 francs sont donc accordés aux APE et 7 millions pour les établissements scolaires. Cette dernière somme couvrira l'achat de produits d'entreprise, de petits équipements ou encore les frais de transport. Du côté de l'opposition, lors de ce conseil municipal, l'élu Xavier Rossard du groupe Dembéa Intègre a souhaité questionner le maire sur les politiques mises en place pour la jeunesse.
On observe que depuis de nombreuses années, en fait, beaucoup de budgets ont été supprimés. La gratuité des camps de vacances, le service de la jeunesse a été supprimé, de la prévention de la délinquance. La maison de la jeunesse a été transformée en une maison des associations. Et donc, j'ai interpellé le maire pour savoir quel était son avis sur la politique jeunesse. Sa réponse, elle est simple, hein, moins 22% de budget, mais moi je considère que dans un budget, on peut mettre des priorités et on peut faire des choix et il aurait fallu que le maire ait une ambition pour ses jeunes.
Et j'ajoute que deux vidéos réalisées par les jeunes du conseil municipal ont été projetées en ouverture de cette séance, l'une sur la thématique de l'environnement et du développement durable, l'autre sur le vivre ensemble. Il s'agit donc du conseil municipal junior. Et puis attention aux arnaques sur Facebook. Dans un communiqué, la ville du Mont d'Or alerte sur de faux profils qui circulent au nom du maire de la commune, Eddy Lecourieux. Ces faux comptes utilisent le réseau social pour récolter des données personnelles, voire solliciter des parrainages. La ville du Mont d'Or tient donc à rappeler que le maire n'a pas de profil personnel officiel sur aucune plateforme. Il ne faut donc surtout pas répondre à ces messages et les signaler sur le site Pharos à l'adresse internet-signalement.gouv.fr. internet-signalement.gouv.fr.
À Radio Rythme Bleu, 6h55.
Et enfin, direction Nouville, à présent, où la Maison des Artisans accueille aujourd'hui et samedi le Salon des Seniors, Léo Fichou.
Oui Nicolas, durant deux jours, les visiteurs découvriront de nombreuses animations ludiques mais aussi sportives. Il y aura également des interventions sur l'épargne retraite, la santé ou encore les services de soins à domicile. Les précisions de Bruno Aurelio de Pacific Fair.
Que vous soyez un senior actif ou si vous cherchez une solution d'aide à domicile ou un établissement de santé pour un aîné, un proche, un parent, donc venez sur le salon, vous verrez, c'est à la fois instructif, ludique. On va danser également, parce qu'on a organisé, on voulait que ce soit un salon dynamique, donc il y aura des défilés avec les mamies de la CAPA. On aura également de la danse en ligne, on aura des petits dansants, des petits concerts, voilà, des expositions avec l'association Témoignage d'un passé. Donc vraiment, on va pas s'ennuyer pendant deux jours, je vous le promets. On va s'instruire, on va apprendre plein de choses, on va se renseigner.
Le salon des seniors, c'est donc de 8h à 18h aujourd'hui et demain à la Maison des Artisans de Nouville. L'entrée est libre et gratuite.
Merci Léo Fichou. Il est 6h56. Une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive avec notamment du judo et cette petite déception côté tricolore au championnat d'Europe.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de Noverrier Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné. Venez découvrir la suite de la programmation du Théâtre de Lille, La Dernière Allumette, Lumière des Misérables, un spectacle magique, onirique et poétique. La rencontre improbable de la jeune fille aux allumettes et de Gavroche dans le tumulte de la Révolution. Ne ratez pas ce spectacle à voir seul, en couple ou en famille, samedi 26 et dimanche 27 avril à 18h. Réservation sur ticket.nc.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
On va commencer avec le tennis et la fin cette nuit pour nous du premier tour du Masters 1000 de Madrid. Deux Français étaient sur les cours, Lionel Sabot.
Alexandre Muller a profité de l'abandon du Belge David Goffin pour se qualifier. Il y avait un set partout et Muller menait un jeu à zéro dans la troisième manche lorsque Goffin a abandonné. Quentin Alice, de son côté, rencontrait l'Italien Luciano Darderi et le Français s'est incliné en 2-7, score final 6-4, 6-4. Ce soir, place au deuxième tour avec 7 Français et notamment l'entrée en lice d'Arthur Fils et d'Hugo Humbert, tête de série dans ce tournoi. Ils étaient exempts pour le premier tour. Un mot également à des dames puisqu'elles sont aussi en Espagne pour disputer le WTA 1000 de Madrid. Diane Paris, la dernière représentante tricolore, affrontait cette nuit la Russe Anna Kilinskaya au deuxième tour. Diane Paris, qui issue des qualifications, s'est inclinée en 2-7, 7-6 et 6-4.
Et puis du judo, Lionel, avec le gratin européen qui est à Podgorica au Monténégro pour les championnats d'Europe.
Et après avoir récolté 4 médailles, 2 en or et 2 en bronze, c'était hier lors de la première journée, la délégation tricolore continue sa moisson avec toutefois grosse déception, notamment chez les dames. Clarisse Agbenenou, qui visait un 6e titre continental, a dû se contenter d'une médaille d'argent après avoir été, c'est très rare, disqualifiée en finale, alors qu'elle avait pris le dessus sur la tchèque Renata Zachova. Agbenenou a été sanctionnée pour avoir saisi le cou de son adversaire, mouvement qui a été jugé dangereux. Chez les messieurs, Johan Benjamin Agaba, révélation des Jeux Paris 2024, a remporté la médaille de bronze. C'était en moins de 73 kilos. Quant au Calédonien Alexis Mathieu, chez les moins de 90 kilos, il fera son entrée dans la compétition ce soir dès 19h30.
Merci beaucoup Lionel Sabot. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors, quelle prévision du temps pour aujourd'hui, Thierry ?
Nous sommes encore en vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages sur l'ensemble du territoire. Pour aujourd'hui, cette nuit, c'est des averses temporairement fortes et orageuses. Ce matin, le temps restera couvert, souvent pluvieux. Les averses pouvant être localement fortes et orageuses, notamment sur le nord et au Loyauté. Le vent, lui, sa variable faible. Il s'établira orienté nord-est autour des 5 à 10 nœuds pour ce matin. Au début, il atteindra 15 à 20 nœuds. Ce sera sur l'extrême sud et marée. Ça sera un maximum. Cet après-midi, les nuages resteront omniprésents et s'accompagneront de nombreux nombreuses averses, modérées à fortes. Le risque orageux persistera sur le sud et au Loyautés. Le vent, lui, pour cet après-midi, orienté nord-est, souvent proche des 10 nœuds, voire 15 nœuds aux extrémités nord et sud. Et on termine par les températures. Elles sont comprises, elles, entre 27 et 30 degrés en général.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Il sera évidemment disponible en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité de ce vendredi matin, puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Elisabeth Noir. Et ensuite, vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.